On s'éclaircit la voix et on commence avec la revue de presse des hebdos avec Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Le Canard Enchaîné analyse et décortique l'intervention d'Emmanuel Macron et ses effets. Alors d'abord une question, est-ce qu'il l'a fait écrire par ChatGPT comme le suggère Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT?
Et ce sont les deux canetons qui nous l'apprennent et ma foi, en lisant la critique d'Éric Emtas dans l'édito intitulé « Fenêtre sur cours, cours écrit avec un T au bout ».
Ah oui.
Bien sûr. On pourrait le croire. Alors pour Emtas, tout était un peu court. Courte l'intervention, brève l'autocritique, court les arguments, un peu court le délai de 100 jours pour réaliser les trois chantiers annoncés, la vie au travail, le mieux vivre, la justice et l'ordre républicain. Mazette. Les réponses du président, un peu courtes pour calmer les syndicats. Et enfin, le retour à la paix sociale nécessaire de sa part, plus, beaucoup plus que des discours, qu'ils soient longs ou qu'ils soient courts. C'est la dernière phrase de l'édito signé Emtas et pas ChatGPT. Et pour illustrer son propos, un dessin en dernière page intitulé « Les 100 jours de Macron », comprenne qui veut, on y voit Macron en Napoléon qui déclare « Cette année où Waterloo aura lieu le 14 juillet ».
Pour Courrier International, Macron est irrattrapable. C'est un drôle d'adjectif, ça, irrattrapable. D'ailleurs, ça veut dire quoi?
Eh bien, écoute, sur la couverture de la caricature est assez claire. Macron est en chute libre, sur fond de barrières bleu-blanc-rouge, et personne ne lui tend la main et il n'a pas de parachute. Et certainement pas la presse étrangère. En Belgique, un président vertical dans Le Soir, au ton un tantinet professoral dans La Libre Belgique. En Suisse, le roi est nu, c'est dans le temps. En Allemagne, un champ de ruines. Il est en train de faire le vide autour de lui, observe le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rarement la presse internationale aura été si unanime pour dénoncer l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron après la promulgation, dans la nuit du 14 avril, de la réforme des retraites et son allocution trois jours plus tard qui n'a convaincu personne. Et ça continue. À l'issue de son voyage en Chine, il se retrouve plus isolé qu'il ne l'a jamais été au cours de ses 6 années de présidence, souffrant d'impopularité en France et inspirant la défiance à l'étranger, écrit Roger Cohen dans The New York Times. Pierre Barraud, sur le site Réaction. Petit caporal ou exemple à suivre, s'interroge l'auteur britannique en comparant Macron au chanteur du groupe Van Halen, auto-déclaré modèle pour tout le monde. Face à ce tourbillon de critiques, Joseph de Weck fait figure d'exception dans The Süddeutsche Zeitung. Ces dernières années, dit-il, la France a insisté avec beaucoup plus de vigueur que la République fédérale pour que l'on remette la Chine à sa place, sur les réductions des risques, sur la 5G, sur l'Indo-Pacifique. Mais ses alliés lui ont tourné le dos et leurs critiques aujourd'hui ne manquent pas d'hypocrisie. Alors il n'y en a pas que pour Macron dans le courrier. En page 18, ne ratez surtout pas l'article qui déboulonne l'idole du moment. Ukraine, Zelensky n'est pas un chevalier blanc. Dans les pays occidentaux, le président ukrainien jouit d'une réputation de héros sans tache, mais une partie de l'opposition lui reproche sa tendance à n'en faire qu'à sa tête et à centraliser le pouvoir.
Dans l'Express, on retrouve les mêmes critiques de Macron.
Dans une chronique intitulée « Grand récit », trois journalistes de l'Express nous expliquent le pourquoi et le comment du désamour dont souffre le président de la République à l'international. Alors, petit florilège, on s'en réjouit. Emmanuel Macron, diplomate, solitaire et incompris. Les déclarations fracassantes du chef de l'État de retour de Chine rappellent sa manie de brouiller les lignes aux grandes dames de nos partenaires. En cause, les propos tenus par Emmanuel Macron auprès des journalistes dans l'avion de retour. Des réflexions fracassantes sur Taïwan, la Chine et les États-Unis. Sentiment de déjà-vu troublant. Le 17 février dernier, en rentrant de la conférence sur la sécurité de Munich, Emmanuel Macron avait déjà dérapé dans les airs, après avoir enfin dit clairement que l'Ukraine doit gagner la guerre et Moscou la perdre. Il ne peut s'empêcher d'expliquer à la presse qu'il ne faut pas écraser la Russie et que toutes les options autres que Poutine lui paraissent pires, sans paraître se rendre compte qu'il reprend la propagande du Kremlin. Sur la forme, les diplomates interrogés par l'Express sont unanimes. Macron parle trop. Il y a des choses qu'un président a le droit de penser, mais pourquoi les dire ? La diplomatie n'est pas la communication. Et aujourd'hui, la diplomatie est hors jeu, réprouve un ancien ministre. Après 6 ans au pouvoir, il ne mesure toujours pas la portée de ses propos, soupire un ancien du Quai d'Orsay. À l'Élysée, on ne reconnaît que la vision géopolitique du président. Je reprends. À l'Élysée, on reconnaît que la vision géopolitique du président est surtout inspirée par lui-même. Les gens pouvaient parler à Hollande très facilement et même à Sarkozy en s'y prenant bien. Macron, c'est différent. Il est pénétré de cette croyance qu'il marche sur les eaux, explique un ancien du Quai. Du pur narcissisme, soupire un ancien ministre. La diplomatie, c'est moi, semble-t-il insinuer, façon Louis XIV, etc., etc. Une belle unanimité sur l'incompétence diplomatique de Macron.
Sur la couve du 1, une jolie illustration pour un sujet tellement triste, dépression, le mal du siècle.
Julien Bisson cite la poétesse américaine Sylvia Plath pour illustrer le thème de la semaine. Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre vidée, figé comme un bébé mort, le monde lui-même n'est qu'un mauvais rêve. Il explique le choix de ce thème. Près d'un Français sur 5 dit en avoir fait l'expérience l'an passé, selon une étude menée par Santé publique France. Un chiffre qui a presque doublé depuis les années 2010. Si la pandémie de Covid est passée par là, les motifs d'anxiété ne se limitent pas aujourd'hui aux questions sanitaires, mais renvoient également aux craintes pour l'avenir, à la précarité ou à la simple difficulté de vivre dans une société qui fait du bonheur une injonction. Particulièrement inquiétant, la santé mentale des jeunes. Marion Pollic a mené une grande enquête et présente un panorama de la santé mentale de la jeunesse française, des étudiants à la petite enfance, et revient sur plusieurs initiatives menées pour endiguer cette détérioration, tout en mettant en exergue l'ampleur des défis à relever. Jonathan Sadowski, historien de la médecine américaine, nuance l'idée que notre époque générerait davantage de dépressions que les précédentes. Il fait le point sur ce que nous savons de cette maladie et sur les thérapies existantes, mais insiste aussi sur l'importance fondamentale de la prévention de ce trouble qui frappe davantage les populations défavorisées. Alors si vous voulez aller plus loin, le 1 vous donne les titres de quelques ouvrages consacrés à cette maudite maladie et vous conseille d'aller voir au cinéma cette semaine le documentaire signé Nicolas Philibert sur l'adamant.
C'est la photo d'une activiste, Camille Etienne, sur la couverture de Télérama. Elle est jeune, elle est belle et elle milite pour le climat.
C'est l'invitée de la semaine. Elle répond avec passion aux questions de Télérama. Dans cette mobilisation, les femmes ont été essentielles. C'est une victoire de l'écoféminisme, demande Télérama. Les plus grands scientifiques sur le sujet, en effet, sont des femmes. Dans les ONG aussi, elles sont nombreuses. C'était le cas à Kingston, en Jamaïque, lors des négociations sur les fonds marins. Face à nous, l'immense majorité des délégations étaient composées d'hommes, plutôt âgés. Forcément, on fait des liens entre différents systèmes de domination. Le monde de l'industrie minière extrêmement virile renvoie directement au rapport de domination du patriarcat et toutes ces décisions sont majoritairement prises par des hommes tandis que les premières victimes du dérèglement climatique sont les femmes qui doivent s'occuper des enfants, des personnes âgées et peuvent difficilement fuir. La génération climat est-elle féministe ? Féministe, oui. En revanche, je ne crois pas en une génération climat. C'est malin de la part des politiques et des médias, en faisant de l'écologie un conflit de génération qui en réalité a toujours existé. Jeunes âmes révoltées contre vieux sages privilégiés, ils la dépolitisent. Alors comment réagissez-vous aux accusations d'éco-terrorisme ? Il est crucial de rappeler les faits. Protester contre une méga-bassine, protéger une forêt, ce n'est pas du terrorisme. Demandez gentiment à nos gouvernants de lutter contre le bouleversement climatique avec le rapport du GIEC sous le bras ne sera pas suffisant. Avec quels moyens ? L'histoire des mouvements sociaux pour les droits des femmes, les droits civiques ou la fin de l'apartheid montre qu'il y a toujours eu collaboration entre plusieurs fronts radicaux et modérés. Alors d'un sujet à l'autre, mais le lien existe, pour que les femmes puissent non seulement militer, mais aussi travailler, sans se priver de la joie de faire des bébés, il faut qu'elles puissent les confier aux crèches. D'en confier, il y a confiance. Hélas, la lecture en page 11 de l'article intitulé « Et maintenant les crèches » est loin d'être rassurant. On savait depuis le scandale Orpea, nos aînés maltraités dans certains EHPAD. On ne peut désormais plus ignorer le sort des enfants dans certaines crèches. Une quarantaine de crèches ont été inspectées et le bilan est inquiétant pour les bébés.
Nous sommes le 21 avril et les bébés qui naissent aujourd'hui sont donc nés sous le signe du taureau.
Oh, Rob, t'es trop fort.
T'as vu un peu, je connais mon horoscope. Rob Bresny dresse l'horoscope des taureaux.
Karl Kraus, un auteur satirique du signe du taureau, a défini l'ironie sentimentale comme un chien qui hurle à la lune pendant qu'il pisse sur des tombes. Il vaudrait mieux que tu évites cette émotion décadente dans les semaines à venir, ami taureau. Rejette également tout autre sentiment inutile ou contre-productif qui naîtrait en toi et dont tu serais la cible, comme la cruauté intelligente, le noble apitoiement sur soi-même ou la douce vengeance. Tu as le droit et le devoir d'être très exigeant sur ce qui composera ton environnement intérieur et extérieur. L'heure du renouveau est proche.